dans les églises et sur les places publiques, au fond des cachots et au sein des familles. Christ vient. Il fait toute chose nouvelle. Parmi les pauvres et parmi les possédants, parmi les humiliés et parmi ceux qui se sentent sûrs de soi, Christ vient. Il fait toute chose nouvelle. Pour dérouter ceux qui pensent voir juste et savoir vrai, pour révéler le règne de Dieu qui vient comme un mystère, Christ vient. Il fait toute chose nouvelle. Pour toi, ma sœur, mon frère, et pour moi, pour tous et pour ce monde qu'il aime, Christ vient faire toute chose nouvelle. Levons-nous pour invoquer son Père qui est notre Père. Le Seigneur, il se fait serviteur des hommes. Il est couché dans une crèche et glorifié par les anges. Il n'a ni prestance ni beauté, mais sur la montagne, il devient plus brillant que le soleil. Il a faim et il nourrit les foules. Il a soif et il est la source d'eau vive. Il est vendu pour une poignée d'argent. Et il rachète le monde entier. Sous les cris des hommes, il se tait, et il est la parole de Dieu. Il meurt et il fait vivre. Il est enseveli et il ressuscite. Oui, béni soit ce serviteur. Il est le Seigneur du monde. Amen. Je vous invite à chanter notre louange avec le psaume 33. Réjouis-toi, peuple fidèle. Et nous chanterons la première, la troisième et la cinquième strophe de ce psaume 33.
Dans la bouche des hommes.
Dieu dit, c'est moi, le Seigneur, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, qui t'ai libéré de l'esclavage, et tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Tu ne te feras pas d'idole. Tu ne prononceras pas mon nom en vain. Tu ne travailleras pas le jour du sabbat. Dieu s'adresse ainsi à celles et ceux qui s'approchent de lui. Et par les quatre premiers des 10 commandements que nous venons de réentendre, résumés, il interdit, il nous interdit toute emprise sur lui, que ce soit par nos pensées, par nos paroles ou par nos œuvres. Car l'Éternel n'est pas à notre disposition. Il est, lui, le Dieu saint. Chantons. Nous prions. Nous allons te chercher, Seigneur, là où nous pensons être sûrs de te trouver. Nous allons te chercher dans les églises, dans les prières, dans l'émotion. Nous allons te chercher dans ce qui est bien, dans ce qui est pur, dans ce qui est idéal. Et nous faisons ainsi de toi un Dieu si prévisible, si disponible. Pardonne-nous de t'assigner à résidence, là où nous voulons que tu sois. Pardonne-nous de te fixer des rendez-vous en fonction de nos priorités. Plus souvent encore, nous allons te chercher là où nous sommes sûrs de ne pas te trouver, de peur d'être dérangé par ta parole, car au fond, nous nous passons très bien de toi dans les occupations de chaque jour. Pardonne-nous de t'éviter, de te reléguer. Et puisque tu viens à notre rencontre, nous t'en prions, donne-nous de te découvrir et de t'accueillir à nouveau. Amen.
Nuit et jour, je te réclame.
Recevoir le pardon de Dieu, ce n'est pas recevoir une chance de plus de mettre sa loi en pratique, ni passer l'éponge sur nos faiblesses, ni se convaincre que Dieu est une sorte de Père Noël qui se laisse attendrir par nos prières. Recevoir le pardon de Dieu, c'est entrer dans une autre logique, celle où ce qui est décisif, ce n'est pas ce que nous faisons, mais ce que Dieu fait. Ce ne sont pas nos œuvres, mais ses œuvres. Ce ne sont pas nos manquements, mais sa promesse. Et sa promesse, la voici. Ne crains rien. Je t'ai appelé par ton nom. Tu es à moi. Je suis le Seigneur, ton Dieu. Tu as du prix à mes yeux. Et je suis avec toi. Voilà l'Évangile. Voilà la bonne nouvelle. Sans condition, Dieu nous connaît et nous reconnaît. Il nous aime et nous accompagne. Il nous relève et il nous fait confiance. Que son pardon soit notre paix. Que sa confiance soit notre vie. Amen. Le passage d'Évangile qui est proposé à notre lecture aujourd'hui par le liste habituel se trouve dans l'Évangile de Marc au chapitre 4. Mais, hélas, comme souvent, c'est une tranche, mais alors fine. Et moi, je vous propose d'en prendre un bon morceau de ce chapitre 4, d'élargir le découpage, mais de manière un peu inhabituelle. Ce chapitre 4 de l'Évangile de Marc, il raconte une longue séquence d'enseignements de Jésus qui s'adresse à une foule nombreuse. Un enseignement tout en paraboles, principalement des paraboles agricoles, botaniques, végétales. Vous savez, le semeur, la semence qui pousse d'elle-même, la graine de moutarde. Nous allons les lire. Notre lecture sera du coup un peu longue, raisonnablement tout de même. Mais nous ne nous arrêterons pas aux paraboles proprement dites. Nous allons nous arrêter à ce qu'il y a entre les paraboles. C'est ce que j'ai mis sur la feuille que vous avez trouvée avec le 4 pages là de liturgie. J'ai mis le texte de ces petits commentaires, des introductions, des conclusions, des transitions, des petits propos que Jésus glisse entre ces paraboles. Pourquoi est-ce que je vous propose de procéder ainsi ce matin ? D'abord parce qu'on le fait rarement. Or, dans ces miettes, il y a des trésors. Et puis d'autre part parce que ce que ces miettes nous donnent à comprendre du Dieu vivant est aux antipodes, mais vraiment aux antipodes, de tout ce que nos représentations mentales collent sur le dos de Dieu. Il ne vous a pas échappé que par les temps qui courent, pour le meilleur et pour le pire, Dieu est souvent réduit à une caricature. Et que les débats, ou plutôt les pugilats, autour du droit au blasphème, de l'expression ou non des convictions religieuses dans l'espace public, de la laïcité même, opposent des positions bien massives, bien manichéennes, bien exclusives l'une de l'autre. Notre société et notre actualité de plus en plus polarisées, où l'image remplace l'argument, où l'invective remplace l'échange, où l'instantané de la petite phrase remplace la durée de la réflexion. Notre société, c'est-à-dire aussi nous-mêmes, hein, pas seulement les autres, notre société adore les simplismes. Eh bien, ce chapitre de l'Évangile selon Marc, et notamment ces petits interstices, ces petites jointures, vient travailler, complexifier ô combien, saper notre goût des simplismes. Et d'ailleurs, si chemin faisant, nous sommes perdus, tant mieux, c'est ce que Jésus essaye de faire. Alors, c'est pourquoi j'ai inscrit en haut de votre feuille, comme ça vous savez dès le début où nous allons, Dieu est pudique, il se révèle
en se cachant. Dieu se révèle en se cachant. Avant de lire, nous prions.
Seigneur, nous ouvrons les Écritures, ces Écritures que nous avons reçues du fond des âges, que nous respectons, que nous vénérons parfois. Nous voudrions te demander ce matin d'avoir faim, faim de découvrir dans ces Écritures ta parole, faim de recevoir dans ces miettes de quoi nourrir, relever et envoyer notre vie, faim de toi et faim les uns des autres, faim de découvrir ton règne qui vient et d'en être témoin aujourd'hui. Donne-nous faim et soif, nous t'en prions. Dans l'évangile de Marc au chapitre 4 donc. Jésus se remit à enseigner au bord de la mer. Il se rassemble auprès de lui une foule si nombreuse qu'il monte dans un bateau sur la mer et s'y assied. Toute la foule était à terre, près de la mer. Il les instruisait longuement en paraboles et leur disait dans son enseignement : Écoutez ! Le semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans un endroit pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt, parce que la terre n'était pas profonde. Mais quand le soleil se leva, elle fut brûlée et elle se dessécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent, et elle ne donna pas de fruits. D'autres grains tombèrent dans la bonne terre, montant et croissant, ils finirent par donner du fruit. L'un rapporta 30, un autre 60, un autre 100. Et il disait, « Celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. » Lorsqu'il fut à l'écart, ceux qui l'entouraient avec les 12 se mirent à l'interroger sur les paraboles. Il leur disait, « À vous, le mystère du règne de Dieu a été donné. » Mais pour ceux du dehors, tout arrive en parabole, de sorte que tout en regardant bien, ils ne voient rien, et que tout en entendant bien, ils ne comprennent rien, de peur qu'ils ne fassent demi-tour et qu'il ne leur soit pardonné. Il leur dit encore, vous ne saisissez pas cette parabole? Comment donc pourrez-vous comprendre toutes les paraboles? Je saute l'explication de la parabole du semeur pour pas trop allonger. Il leur disait encore, la lampe vient-elle pour être mise sous le boisseau ou sous le lit? N'est-ce pas plutôt sur le porte-lampe? Car il n'est rien de caché qui ne doive se manifester, rien de secret qui ne doive venir en pleine lumière. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Il leur disait encore, prenez garde à ce que vous entendez. C'est avec la mesure à laquelle vous mesurez qu'on mesurera pour vous, et on y ajoutera encore pour vous, car on donnera à celui qui a. Mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Il disait encore, il en est du règne de Dieu comme d'un homme qui jette de la semence sur la terre, qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. D'elle-même la terre porte du fruit, d'abord l'herbe, puis l'épi, enfin le blé bien formé dans l'épi. Et sitôt que le fruit est mûr, on y met la faucille car la moisson est là. Il disait encore, à quoi comparerons-nous le règne de Dieu? Par quelle parabole le représenterons-nous? C'est comme une graine de moutarde qui, lorsqu'on la sème en terre, est la plus petite de toutes les semences de la terre. Mais une fois semée, elle monte, devient plus grande que toutes les plantes potagères,
et donne de grandes branches, de sorte que les oiseaux du ciel peuvent habiter sous son ombre. C'est par beaucoup de paraboles de ce genre qu'il leur disait la parole, selon ce qu'ils étaient capables d'entendre. Il ne leur parlait pas sans parabole, mais en privé, il expliquait tout à ses disciples. Je faisais allusion en commençant tout à l'heure à la place des religions, la place discutée des religions dans notre société. On dit souvent, vous savez, ça fait partie de ces expressions consacrées qu'on répète sans trop y réfléchir, que le christianisme fait partie des religions révélées. Et d'ailleurs, à propos de la Bible, on parle souvent de la révélation. La révélation, c'est ce que Dieu fait connaître aux hommes, et la Bible en est le témoignage, la trace, le vecteur. Révélation. Le mot évoque peut-être en premier une divulgation publique, lumineuse, en général soudaine et inattendue. Par exemple, dans l'affaire Wikileaks ou Panama Papers, voilà une révélation, hein, une publication soudaine qui met en lumière des pratiques jusque-là dissimulées, occultées, secrètes et qui les rend accessibles à tous. Lumineux, soudain, accessible à tous. Mais c'est aussi des caractéristiques qu'on peut attribuer aux paraboles de Jésus. Jésus, il savait se faire entendre d'une manière frappante, non pas seulement par les théologiens et les savants, mais par les foules. Et ça tient pour une bonne part aux paraboles. Les paraboles, elles sont faites pour ouvrir et frapper les oreilles, les yeux, les esprits, les cœurs. Et puis patatras, vous avez entendu comme moi Jésus reprendre à son compte des mots du prophète Ésaïe. À vous, le mystère du règne de Dieu a été donné, mais pour ceux du dehors, tout arrive en parabole, de sorte que tout en regardant bien, ils ne voient rien, et que tout en entendant bien, ils ne comprennent rien. C'est le contraire d'une révélation, non ? Bigre, il va falloir revoir nos idées. Donc, si j'en crois cette citation que Jésus fait, les paraboles seraient faites pour aveugler, les paraboles seraient faites pour embrouiller, c'est leur but. Elles sont faites pour rendre inaccessible le contenu même de l'enseignement de Jésus. Et moi qui croyais que Jésus venait éclairer Dieu, le monde, la vie, ça a quelque chose d'un scandale. Et au fait, quel est le contenu de ces paraboles censées, que les paraboles sont censées rendre inaccessibles ? Je relis, à vous, le mystère du règne de Dieu a été donné. Mais pour ceux du dehors, tout arrive en paraboles, etc. Le mystère du règne de Dieu, c'est donc ça le cœur de l'enseignement de Jésus. Alors attention, Jésus ne dit pas qu'il va décrypter les mystères, vous savez, comme un maître, un grand maître de sagesse qui dévoilerait le sens caché d'un message ésotérique. Le mot mystère, il est au singulier. Jésus n'évoque pas des choses mystérieuses qui concerneraient le règne de Dieu. C'est le règne de Dieu qui est un mystère, qui est en lui-même quelque chose de mystérieux. Et ce mystère, donc, Jésus le donne tel quel à ses auditeurs, il le leur remet, il le leur transmet, tenez, voilà le règne de Dieu mystérieux, point. Donc avec ces paraboles et selon ses propres mots, Jésus dit ce qui est indicible, un mystère. Il enseigne ce qui est inenseignable, puisque c'est un mystère. Et il le fait de manière délibérément inaudible et incompréhensible. Et alors maintenant, on fait quoi avec ça ? D'abord, on en tire une conclusion, c'est que l'enseignement de Jésus, ce n'est pas un savoir. Ce n'est pas un contenu qui se mettrait dans des formules, des phrases bien articulées, des raisonnements impeccables. Et puis ensuite, on peut se rappeler la première phrase que Jésus avait dite quand il avait pris la parole publiquement dans cette région de Galilée où il se trouve encore. Il avait dit ceci, le règne de Dieu s'est approché. » Et en effet, là où Jésus s'approche, le règne de Dieu s'approche. Là, les malades sont guéris. Les paroles ont autorité. Les hommes se lèvent. Les observances pesantes sont rejetées. Les péchés sont pardonnés. Là où Jésus est en personne, là, Dieu règne, manifestement. Jésus donc, qui, dit-il, donne à ses auditeurs le mystère du règne de Dieu. Jésus ne leur donne pas un savoir. Il se donne lui-même. Il est, lui, le mystère du règne de Dieu. Et du coup, s'éclaire tel ou tel détail de notre récit. Par exemple, vous avez peut-être remarqué dans la parabole de la lampe cette phrase. La lampe vient-elle pour être mise sous le boisseau? Vous avez noté? Elle vient d'elle-même, cette lampe. Elle se déplace tout seul. C'est une lampe automobile. C'est un détail insignifiant jusqu'à ce qu'on fasse le lien avec ce que Jésus dit. Il n'est pas le porteur d'un enseignement qui serait figuré par la lampe. Il est lui-même, en personne, cet enseignement. Il est cette lampe qui s'avance et qui vient. Autrement dit, si le but des paraboles est d'obscurcir, de boucher, d'embrouiller, c'est pour éviter à ceux qui les entendent un malentendu bien plus fondamental qui consisterait à séparer Jésus de son enseignement, à faire de Jésus le maître d'un savoir qu'on pourrait considérer à distance pour en débattre, le discuter, peser le pour et le contre, argumenter comme d'une opinion qui serait proposée. Le règne de Dieu n'est pas de cet ordre-là. Il n'est pas un concept intellectuel. Il n'est pas une opinion. Il n'est pas un objet spirituel. Le règne de Dieu se découvre dans une personne, Jésus lui-même. Le règne de Dieu est donné quand on reçoit Jésus, quand on le rencontre. Dans son enseignement, Jésus n'expose pas un savoir, il s'expose lui-même. Et si les paraboles sont obscures, c'est pour nous tourner de ce qui est dit vers celui qui l'est dit. Je parlais il y a un instant de scandale. Il y en a un second. C'est que Jésus sélectionne. Il fait le tri. Il discrimine. Il y a ceux qui en sont et puis ceux qui n'en sont pas. Il y a les privilégiés, puis il y a la masse, il y a les élus, puis il y a les autres. Hein ? À vous, le mystère du règne de Dieu a été donné. Mais pour ceux du dehors, tout arrive en parabole, afin que, de sorte que, etc. Donc il y a bien un « vous » et puis ceux du dehors, les initiés et puis la périphérie. Et non content de faire le distinguo, Jésus en rajoute « On donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. » Et moi qui croyais que Dieu est juste et que, comme on dit, il ne fait pas exception de personne. Moi qui croyais que Jésus était venu pour tous les hommes, que l'évangile est universel, alors on fait quoi avec ça de nouveau maintenant? Eh bien, tant qu'à faire, on essaye de savoir qui est qui. Alors, on commence par remarquer qu'au tout début, verset 1, Jésus s'adresse à toute la foule. Et puis, un peu plus loin, au verset 10, on lit ceci, « À ceux qui l'entouraient avec les 12, Jésus dit, « À vous, le mystère du règne de Dieu a été donné, mais pour ceux du dehors, qui est-ce ce vous ?» Ce n'est pas seulement les 12, puisqu'il dit à ceux qui l'entouraient avec les 12. Qui est-ce ceux qui l'entourent au-delà des 12 par opposition à ceux du dehors? mystère. Et puis juste après, verset 13, c'est à ce petit cercle que Jésus dit « Vous ne saisissez pas cette parabole ? Comment donc pourrez-vous comprendre toutes les paraboles ?» Autrement dit, au sein même de ce cénacle, de ceux qui entourent Jésus, les paraboles sont déjà un obstacle. C'est comme si, dans le premier cercle autour de Jésus, il y avait déjà des gens du dehors. D'ailleurs, c'est bien simple, dans la suite du chapitre, on ne sait plus à qui Jésus parle. Vous, les disciples, la foule, ceux du dehors, c'est plus précisé. C'est délibérément ambigu. Heureusement, vers la fin du passage, verset 24, on retombe sur nos pattes, mais en privé, Jésus expliquait tout à ses disciples. Ouf ! Les disciples ont droit à des cours du soir pour que, au moins, eux ne comprennent pas de travers. Sauf que juste après, le récit de la tempête apaisée, qu'on n'a pas lu, on ne peut pas tout lire, nous dit exactement le contraire. Il nous raconte que les disciples sont dans une tempête mortelle, qu'ils appellent au secours, qu'ils voient Jésus imposer souverainement son autorité à ce chaos qui se déchaîne. Et pourtant, Marc prend bien soin de le préciser, les disciples ne sont pas terrifiés par la tempête, mais par le miracle. Ils ne comprennent rien à qui est Jésus. Ils n'ont pas le commencement d'un début de foi. Ils voient un miracle de leurs yeux, mais leurs yeux ne voient rien. Et leur intelligence ne comprend rien. Les disciples réagissent exactement comme ceux du dehors, dont le regard et l'entendement sont aveuglés. Il y a bien deux cercles parmi ceux qui croisent Jésus, deux ensembles. Et d'ailleurs, comment est-ce qu'il pourrait en être autrement, puisqu'il s'agit d'accueillir Jésus ou pas, l'un ou l'autre. Pas 36 solutions, il ne s'agit pas d'adhérer plus ou moins à une doctrine, de s'approprier plus ou moins un savoir, d'avoir plus ou moins une opinion, il s'agit d'accueillir ou pas. Accueillir ou pas Jésus. Soit on accueille, soit on n'accueille pas. Mais qui est qui ? Mystère. Ce ne sont pas ceux qui sont les plus proches de Jésus qui l'accueillent vraiment, forcément. Marc prend bien soin, au fil du chapitre, de mêler ces deux cercles, d'effacer leur circonférence, si vous voulez, car on peut sembler être parmi ceux du dehors et accueillir en fait le règne de Dieu. Et on peut sembler être embarqué avec Jésus et rester en fait au dehors. J'espère vous avoir bien embrouillé, puisque c'est ce qu'ils cherchent. Parce que donc, on a quand même vu que ce texte est tissé de paradoxes qui nous embrouillent les uns après les autres. On a d'abord vu que Jésus cherche à embrouiller l'esprit de ses auditeurs. Pourquoi ? Pour qu'ils ne s'attachent pas à des théories sur le règne de Dieu, si vous voulez, mais à celui qui s'est approché et qui parle. Pour qu'ils ne cherchent pas à apprendre une leçon, mais à rencontrer celui qui fait survenir ce règne de Dieu. Et puis, ensuite, nous avons vu que Jésus cherche à non plus embrouiller ses auditeurs, mais à les embrouiller entre eux. Oui, il y a ceux qui accueillent et ceux qui ne l'accueillent pas, mais personne ne sait où passe la frontière, ni quand, nul ne sait qui est qui. Bref, Jésus parle, mais c'est comme si sa parole était incompréhensible. Il est clair, mais c'est comme s'il obscurcissait. Il s'avance, mais c'est comme s'il reculait. Il proclame la venue du règne de Dieu, mais c'est comme s'il le rendait inaccessible. Il révèle, mais c'est comme s'il cachait. Nous y voilà. Dieu se révèle en se cachant. C'est exactement ce que fait Jésus ce jour-là en racontant ses paraboles. Du coup, on peut se rappeler que ce paradoxe traverse toute la Bible. Dieu se manifeste, oui, mais en se voilant. Dieu se révèle, oui, mais en se cachant. Dieu se fait connaître par sa parole. Ça commence avec le premier verset de la Bible. Et qu'est-ce que c'est donc que la parole, sinon quelque chose qui survient, mais qui est insaisissable et qui s'évanouit aussitôt ? Dieu donne son nom à Moïse au buisson ardent, mais c'est un nom imprononçable. Dieu lui-même parle à son peuple, mais toujours par des prophètes, c'est-à-dire par des paroles à 100% humaines. Et chaque fois qu'il s'avance, en personne, c'est dans un feu qui dissimule, c'est dans une nuée qui masque, c'est dans un murmure silencieux. Dieu se montre sans se faire voir. Il s'avance en se retirant. Il est là, mais en creux. Il se révèle en se cachant. Et le Nouveau Testament pousse ce paradoxe à l'extrême parce qu'il témoigne de ceci. Dieu se fait connaître de manière ultime. Et comment ? Comme un homme. Un homme crucifié. C'est-à-dire, selon le regard de ce temps-là, comme un homme rejeté par Dieu. Abandonné de Dieu. Il est Dieu, oui, mais sans Dieu. Et à qui voudrait embaumer ce Dieu mort, localiser Dieu dans ce cadavre, le Nouveau Testament dit, il n'est plus dans le tombeau, il est parti, il est vivant. À Noël, c'est ce que nous fêtons, l'abaissement du Très-Haut. Le Vendredi Saint, c'est ce que nous commémorons, la désarmante faiblesse du Tout-Puissant. Et à Pâques, à la Pentecôte, à l'Ascension et à la Pentecôte, c'est ce que nous affirmons, la vérité du Dieu vivant, elle se manifeste dans la crèche, dans la croix, et c'est dans ce paradoxe-là que Dieu nous appelle et nous entraîne avec lui. En Jésus, le Christ, né, mort, relevé, Dieu se révèle en se cachant. Les paraboles paradoxales sont donc la forme de langage la plus appropriée à ce Dieu-là. Selon Marc, l'évangéliste, c'est même la seule forme vraiment appropriée puisqu'elles font ce qu'elles disent. Elles sont des paraboles, ce qui signifie projeter à côté. Elles nous décalent par leur extravagance pour nous attacher à celui qui les dit. Elles nous interrogent, nous auditrices et auditeurs, et toi, où en es-tu ? Est-ce que tu l'accueilles ou non ? Les paraboles révèlent en cachant. Elles révèlent un Dieu qui, en Jésus-Christ, de manière ultime, se fait connaître en se cachant. Pour le résumer d'un mot, elle nous montre un Dieu pudique. Et c'est là qu'est la bonne nouvelle. Dieu n'est pas ce qu'on s'en représente. Il n'est pas ce qu'on croit en savoir. Il n'est pas ce qu'on voudrait en prouver. Il n'est pas dans l'obscénité d'un étalage de puissance, de violence, de doctrine, de prescription, de morale, de faste. Avec les paraboles, on est à l'opposé des religions à gros drapeaux et à gros sabots, y compris le christianisme quand il s'y met. Le projet de Dieu n'est pas de saturer notre monde, notre vie, d'une présence évidente et qui éclipserait tout ce qui n'est pas lui. Dieu se révèle en se cachant. Il est pudique et sa pudeur nous rend libres. C'est justement parce qu'il se révèle en se cachant, c'est justement parce qu'il s'avance en se mettant en retrait qu'il nous autorise à être, qu'il nous met en chemin, qu'il nous appelle à prendre toute notre place, non pas sans lui ni contre lui, mais ajusté à lui. En ce sens, ces paraboles qui nous embrouillent sont des paraboles qui nous libèrent. Elles nous libèrent de nos incompréhensions. Nous avons l'impression de ne pas bien comprendre clairement Jésus, de devoir toujours tout reprendre à zéro, mais c'est exactement le chemin de la foi, nous disent les paraboles. Ces paraboles nous libèrent de nos classifications, Nous ne savons pas toujours très bien où nous en sommes, si nous sommes proches ou dehors, si nous en sommes ou pas, nous nous sentons déroutés. C'est exactement le chemin de la foi, nous disent les paraboles. Les paraboles du Dieu pudique ont cet effet libérateur parce qu'elles révèlent tout en cachant. Elles sont le langage adéquat au Dieu vivant, insaisissable et proche, au Dieu pudique qui se révèle en se cachant. Et je vous le relis. À vous, le mystère du règne de Dieu est donné. Celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Et à bon entendeur, salut.
Je vous invite à vous lever pour écouter la confession de la foi chrétienne. Nous écouterons ce matin la version liturgique de la déclaration de foi de notre Église. En Jésus de Nazareth, Dieu révèle son amour pour l'humanité et le monde. Nous croyons qu'en Jésus, le Christ crucifié et ressuscité, Dieu a pris sur lui le mal. Père de bonté et de compassion, il habite notre fragilité et brise ainsi la puissance de la mort. Il fait toutes choses nouvelles. Par son Fils Jésus, nous devenons ses enfants. Il nous relève sans cesse, de la peur à la confiance, de la résignation à la résistance, du désespoir à l'espérance. L'Esprit Saint nous rend libres et responsables par la promesse d'une vie plus forte que la mort. Il nous encourage à témoigner de l'amour de Dieu en parole et en acte. À celui qui est amour, au-delà de tout ce que nous pouvons exprimer et imaginer, disons notre reconnaissance, célébrez Dieu car il est bon. Et sa fidélité dure pour toujours. Amen.
Avant de commencer les annonces, bien sûr, je dis un chaleureux merci à Laurent Schlumberger qui et pasteur de l'église de la Rencontre, qui a été le dernier président du Conseil national des réformés de France et le premier président du Conseil national de l'Église protestante unie de France. Voilà. Merci d'être venu. C'est un plaisir de remettre en place cette image de Dieu que tout le monde façonne, évidemment, en fonction de nos vies et de nos idées, etc. Et de nous redire que c'est un Dieu qui ne nous écrase pas, qui nous rend libres. Voilà. Et ça, pour le foyer de l'âme, c'est important. Alors, voici les annonces. Déjà, on va commencer par la collecte alimentaire, vous savez, tous les dimanches. Et cette collecte alimentaire, la porte de la petite salle est ouverte jusqu'à 13h. Voilà. Pour la Croix-Rouge, vous le savez, une relation qui s'est créée avec la Croix-Rouge. Alors, aujourd'hui, vous vous êtes aperçu, l'école biblique est en sortie au Jardin des Plantes. Nous les avons vues tout à l'heure. Alors, cette semaine, il y a quelques rencontres. Le conseil presbytéral se réunit le mardi 15 à partir de 20h. Il y a aussi le lendemain, donc mercredi 16, le groupe biblique l'Épître de Paul aux Galates qui se réunit à 19h30 jusqu'à 21h. La semaine suivante, je présume, donc c'est le comité d'organisation de la fête de l'amitié qui se réunit donc à 18h30 le mercredi 23. Ah, ce mardi 22, donc voilà, il faudra corriger parce que c'est marqué mercredi 23. Et puis, pour la fête de la musique, il y a un concert, c'est organisé par Nicole. Donc, ce concert chant et orgue avec Marie-Ange Laurent, organiste, Isabelle Frémaux, soprane. C'est donc un petit peu décalé, puisque c'est le lundi 21 à partir de 18h30. Voici pour les annonces. Je vous remercie.
Sur mon papier, il y a marqué que c'est le moment de l'offrande. Vous vous rappelez, celui qui a, on lui donne, celui qui n'a pas, on lui enlèvera. Faites-en ce que vous voulez. Père, comme des enfants à qui le mystère du règne est donné, et comme ceux du dehors que nous sommes aussi, nous te prions. Nous te prions pour les autres. Nous te prions pour ce monde. Et nous te prions pour que notre prière soit le début d'une marche, d'un engagement, d'un partage, chaque jour de notre vie, et très concrètement, chaque jour de cette semaine. Tu t'avances en te cachant. Nous te prions pour celles et ceux qui ne savent que s'avancer, se mettre au premier rang. Et nous te prions pour celles et ceux qui subissent d'être cachés, relégués, humiliés. Donne, Seigneur, ton pain à ceux qui en ont faim. Et donne faim de toi à ceux qui ont trop et qui débordent. Donne ta force à ceux qui sont affaiblis. Et la faiblesse à ceux qui se croient forts. Donne ta foi à ceux qui doutent. Et le doute à ceux qui croient te posséder. Donne ta confiance à ceux qui ont peur. Et donne l'hésitation à ceux qui ont trop confiance en eux. Donne ta paix à ceux qui sont en guerre avec eux-mêmes, avec les autres, et de dirigeant à dirigeant, et de pays à pays. et donne la surprise et l'interrogation à ceux qui sommeillent, qui dorment, repus. Que ton Église, toute ton Église et notre Église ici, soit en quête de ce règne qui vient, à l'affût de ce mystère déjà planté dans le monde et qui grandit et s'épanouit mystérieusement. C'est dans cette espérance qu'avec tous tes enfants et selon la parole de ton Fils, nous te disons ensemble, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Bonne nouvelle. Dieu est pudique. Il se révèle en se cachant. Il se fait connaître comme un nouveau-né, comme un crucifié, comme un insaisissable ressuscité. Il s'avance en se mettant en retrait et c'est ainsi qu'il nous relève, qu'il nous donne notre place, qu'il nous rend responsables. Que Dieu nous bénisse et nous garde.